Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, les enseignements de ce dimanche complètent et prolongent ceux du dimanche précédent. L'épître de dimanche dernier comparait deux alliances. Elle disait que l'ancienne alliance était une loi gravée sur la pierre, une loi qui apportait la condamnation et la mort. Face à cette ancienne alliance, saint Paul se glorifiait d'être ministre d'une nouvelle alliance, un nouveau testament, Novi Testamenti, un ministère de l'Esprit qui vivifie et non de la lettre qui tue. Cette opposition entre une alliance qui tue et une alliance qui apporte la vie a quelque chose d'étrange. N'est-ce pas Dieu lui-même qui a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï? Les 10 commandements n'ont-ils pas été gravés par Dieu lui-même sur les tables de la loi? Dieu aurait-il donc voulu la mort de son peuple? Aurait-il voulu le condamner en lui donnant une loi qu'il était incapable d'accomplir? Nous avons la réponse à cette question avec l'épître d'aujourd'hui. La loi, nous dit saint Paul, n'a pas abrogé la promesse faite à Abraham. Et cette promesse fait partie de l'alliance. C'était même l'essentiel de cette alliance. L'ancienne alliance a commencé avec la promesse faite à Abraham et non avec la loi donnée à Moïse 430 ans plus tard. Qu'est-ce que cette promesse? C'est la promesse faite à Abraham que le Messie naîtrait de sa descendance. Le Messie, c'est-à-dire le Sauveur. Et Abraham a reçu au sujet de ce Messie une prophétie en acte. Vous vous rappelez que Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, Isaac, l'héritier de la promesse. Abraham est donc venu sur le mont Moria, là où plus tard sera bâti le temple de Jérusalem. Isaac marchait à sa suite, portant le bois du sacrifice. Et au dernier moment, un ange est intervenu pour empêcher Abraham de tuer son fils et faire remplacer Isaac par un bélier. Abraham, alors, a compris que le Messie devait un jour être sacrifié, qu'il serait livré par son père pour mourir sur le bois. Abraham crut en la promesse, il eut foi dans le Messie et dans son sacrifice, et cela lui fut imputé à justice. Il devint juste. Et tous les Juifs, tous les descendants d'Abraham pouvaient devenir justes, pouvaient recevoir la grâce sanctifiante en partageant la foi d'Abraham, en croyant à l'avance à ce Messie qui allait les sauver par son sacrifice, par sa mort sur le bois. Voilà donc la réponse à notre question. La loi ancienne était une loi de mort, un ministère de condamnation, parce que toutes les prescriptions de la loi, les 10 commandements contenus dans les 2 tables de la loi, les 2 commandements de la charité, qui résument tous les commandements de la loi, comme le disait notre Seigneur dimanche dernier, ces commandements étaient impossibles à accomplir sans la grâce de Dieu. La loi faisait connaître la volonté de Dieu. Le bien à faire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Le mal à éviter, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais la loi ne donnait pas la force pour accomplir la loi, pour faire ce bien et éviter ce mal. Or, il est plus grave de faire le mal en le connaissant, en sachant que c'est mal, que de le faire avec une certaine ignorance de notre devoir. La loi seule était une loi de mort, mais la loi, la foi en la promesse, donnait la vie. Et les Juifs pouvaient obtenir le salut s'ils avaient la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'en tirer quelques leçons pour nous, faisons une réflexion sur une erreur très grave répandue par l'Église conciliaire de façon explicite, au moins depuis Jean-Paul II. Vous trouvez à ce sujet des précisions dans les deux plaquettes de Michel Lorigan, alias Monsieur Joël Morin. C'est l'erreur qui consiste à dire aux Juifs « Les promesses de Dieu sont sans repentance. » Or, Dieu a promis de vous donner le salut par l'alliance qu'il a contractée avec vous. Donc, vous n'avez pas besoin de vous faire chrétien. Pratiquez votre loi, vous irez au ciel comme nous. L'évangile n'est pas obligatoire pour vous. C'est facultatif, du fait des promesses faites à Abraham, faites à Israël. Mais c'est oublié que l'ancienne alliance comprenait deux choses. La loi, contenue dans les livres de l'Ancien Testament, et la promesse du Messie à venir, auquel il fallait croire. Aujourd'hui, ce Messie est venu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour les Juifs autant que pour nous, et même d'abord pour les Juifs. Les Juifs ne peuvent donc se sauver seulement avec leurs doigts. Ils doivent aussi croire au Messie déjà venu, à notre Seigneur Jésus-Christ. L'attitude de l'Église conciliaire est criminelle, car elle laisse les Juifs, avec leurs lois écrites, avec la lettre qui tue, et elle les prive de la foi qui sauve. Cette erreur est une des pires de toutes les erreurs de l'Église conciliaire, car elle pervertit l'économie de la rédemption, le plan de Dieu pour le salut des hommes. Tous les hommes, pas seulement les Juifs, doivent croire en notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Ceux qui ne croient pas sont appelés infidèles, infideles. Le préfixe « in » signifiant « sans ». Ils sont sans la foi. Pour les Juifs, l'Église a un mot spécial. S'ils n'ont pas la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont perfidis, perfides. Le préfixe « père » signifiant « à côté de ». Jésus est venu chez les Juifs. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ils sont passés à côté de la foi, perfidem, à côté de la foi qui pouvait les sauver. Il est temps de tirer quelques conclusions pour nous. Nous avons dit que nous, comme les Juifs, nous sommes sauvés par la foi. Mais il faut préciser, par une foi vivante, par une foi véridique, par une foi qui fait accomplir ce qu'elle croit, une foi qui fait de nous de vrais chrétiens, qui marchons derrière Jésus-Christ en lui obéissant, en observant les 10 commandements du Décalogue et les 2 préceptes de la charité. C'est ce que nous fait demander la collecte de la messe d'aujourd'hui. Omnipotens sempiterne Deus, da nobis fidei spei et caritatis augmentum. Ô Dieu Tout-Puissant et Éternel, donnez-nous une augmentation de foi, d'espérance et de charité. Et tout peri amour a sequi code promitis, factos amare code precipis. Et afin que nous méritions d'obtenir ce que vous promettez, faites-nous aimer ce que vous prescrivez. Nous demandons la foi, l'espérance et la charité. Da nobis. Car ce sont des vertus surnaturelles. Nous ne pouvons les acquérir par nos propres forces. Et notre prière s'adresse au Dieu Tout-Puissant et Éternel. Car il ne faut rien moins que la toute-puissance de Dieu pour nous conduire à la vie éternelle. Nous demandons dans l'ordre la foi en premier, car elle est le fondement de la vie surnaturelle. C'est la foi qui nous montre le but de notre vie, le ciel. La foi ouvre donc la voie à l'espérance, qui nous fait espérer le bonheur éternel, en nous appuyant sur la toute-puissance divine, mais aussi sur l'observation des commandements. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre. Pour que notre espérance ne soit pas vaine et présomptueuse, nous demandons aussi d'aimer les commandements afin de les observer. Et tout mere amor a sequi quod promittis, facos amare quod precipis, afin que nous méritions d'obtenir ce que vous promettez, faites-nous aimer ce que vous prescrivez. Nous demandons cet amour des préceptes divins, non seulement pour que notre espérance ne soit pas vaine et présomptueuse, mais aussi pour que notre charité, notre amour, soit véritable. La charité, la troisième vertu théologale que nous demandons, en troisième lieu, après la foi et l'espérance, la charité qui nous ouvre la porte du ciel, car nous serons jugés sur l'amour, cette charité n'est une charité vraie que si elle nous fait obéir au commandement de Dieu. Quid illigit me, sermones meos servat. Celui qui m'aime, c'est celui qui observe ma parole. Vos amici mei estis, si feceritis que ego precipio vobis. Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Qui habet mandata mea et servat ea, ille est qui diligit me. Celui qui a mes commandements et qui les observe, c'est celui-là qui aime, qui m'aime. Nous demandons donc une charité vraie, une charité qui se prouve par les œuvres. Probatio dilectionis, exhibitio est operis, dit saint Grégoire le Grand. Notre amour se prouve par nos actes. Nous demandons donc dans cette collecte une foi vive qui nous fait voir le ciel qui nous attend et l'enfer qui nous menace. Une espérance ferme qui s'appuie sur la toute-puissance divine et sur l'observation des commandements. Une charité vraie qui se prouve par notre obéissance aux préceptes divins. Méditons, apprenons cette oraison, cette collecte magnifique, comme toutes les collectes des messes des dimanches après la Pentecôte, dont beaucoup ont été composées par saint Grégoire le Grand, ce grand génie de la liturgie romaine. Un chrétien qui passerait à côté de la foi reçue à son baptême, un chrétien qui aurait une foi morte, qui serait sans espérance ferme et sans charité efficace, un tel chrétien serait aussi coupable que les juifs perfides, et même plus coupable, car il a plus reçu de Dieu. Que Notre-Dame nous préserve d'un tel malheur, qu'elle nous obtienne une augmentation de foi, d'espérance et de charité. Elle qui est la Vierge fidèle, la mère de la connaissance, de la sainte espérance, et du bel amour. Mater agnitionis, sancte spei, et pulcre dilectionis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.